RTS Info, Karine Joriot.
L'Allemagne dénonce une série de cyberattaques russes. Berlin a annoncé aujourd'hui avoir convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de Russie. Les cyberattaques menées en 2022 visaient notamment le Parti social-démocrate au pouvoir, ainsi que des entreprises du secteur de la défense, de l'aérospatiale, de la logistique et des technologies de l'information, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Le ministère tchèque des Affaires étrangères a également déclaré aujourd'hui que Prague avait été à plusieurs reprises la cible de cyberattaques orchestrées par un groupe lié au service de renseignement militaire russe. Moscou dément ces accusations, les qualifiant d'infondées. En France, la police a débuté à la mi-journée une intervention à Sciences Po Paris. Objectif, évacuer plusieurs dizaines de militants pro-palestiniens qui occupaient les locaux de l'université depuis hier. La fermeté est totale et restera totale, a déclaré le gouvernement français. La police est également intervenue aujourd'hui à Sciences Po Lyon. 23 sites perturbés ont été évacués hier, précise encore Matignon. L'initiative contre la vaccination est inutile, c'est l'avis d'un comité interparti composé de tous les partis à l'exception de l'UDC. Personne ne peut être vacciné sans son consentement, justifie le comité. Il recommande donc de voter non au texte soumis à votation le 9 juin. L'initiative demande que chacun ait la liberté de déterminer lui-même ce qui doit être injecté ou implanté dans son corps. Défendre l'attractivité de Genève en renforçant l'innovation et l'employabilité, c'est l'objectif que s'est fixé le canton de Genève. La conseillère d'État Delphine Bachmann, à la tête de l'économie et de l'emploi, a présenté aujourd'hui la feuille de route de son département pour 2023-2028. Le plan d'action se décline en 19 mesures. Il s'agit notamment de développer une stratégie de marketing territorial en misant davantage sur l'innovation. La conseillère d'État compte sur le développement du campus Biotech, qui est actuellement une pépite inexploitée. Elle veut également soutenir les start-up. Autre priorité, améliorer l'employabilité dans un canton qui, malgré une pénurie de main-d'œuvre, enregistre un taux de chômage de 4,2%. L'État de Fribourg a inauguré aujourd'hui la nouvelle prison de Bellechasse. Les travaux d'agrandissement, qui ont duré 2 ans, comprennent la création de 66 cellules pour les détenus en milieu ouvert. Le coût total avoisine les 40 millions de francs. Il sera désormais possible de relier New Delhi depuis Cloton. La compagnie aérienne Air India va désormais desservir la capitale indienne à partir de l'aéroport de Zurich. 4 rotations hebdomadaires sont prévues à partir de la mi-juin. Air India avait été présent sur le tarmac de Cloton jusqu'en 1997, a indiqué dans un communiqué la compagnie aérienne. Cette dernière fait partie du réseau Star Alliance, dont Suisse est également membre. En basketball, le BBC Nyon a annoncé aujourd'hui la nomination de Malay Ndoye au poste d'entraîneur. Le Sénégalais de 43 ans évoluait encore comme joueur avec le club vaudois cette saison avant de prendre sa retraite. La météo, après quelques belles éclaircies, les cumulus vont faire leur retour en cette fin de journée avec un risque d'averse, en particulier sur les reliefs. Demain, assez ensoleillé avec l'arrivée de nuages par l'ouest déjà tôt en matinée pour l'ouest lémanique. L'après-midi, nuageux, dernières éclaircies en Valais central et en Haut-Valais et quelques faibles précipitations possibles surtout sur l'ouest l'après-midi et en soirée. Il fera maximum 15 degrés en pleine.
Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch. Superflu avec Mission Astrophone. L'escape game urbain à Neuchâtel, missionastrophone.ch. Oh,
c'est trop bien, trop bien.
Superflu, deuxième partie.
Oui, deuxième et dernière partie de Superflu en ensemble en direct sur Couleur 3 jusqu'à 17h. Rejoignez-nous en vidéo pour voir les jolies chorégraphies de Christelle Di Marzo sur couleur3.ch ou plus tard ce soir sur youtube.com/superflu pour encore quelques semaines. Tout doit disparaître. Je suis toujours accompagné de monsieur Otavio Arojo pour la Real Audio.
You lose.
Et Charlotte Fernandez pour la vidéo.
You win.
Au moins, c'est simple. Pour ma part, je peux déjà vous annoncer qu'on va faire un service après-vente des courts-métrages avec un court-métrage dont je vous ai parlé qui est enfin enfin sorti. On va parler aussi d'une plaisanterie qui sera prochainement diffusée au Festival de Cannes, d'un grand monstre du cinéma qui sera pas projeté au Festival de Cannes mais qui sera au Festival de Cannes. Et on parlera d'un acteur dont j'ai mis beaucoup de temps à trouver et à réussir à donner son nom, c'est Benedict Cumberbatch.
Cumberbatch.
Toi Christelle, tu vas nous emporter sur la dernière série Netflix avec Pierre Niney.
Qui fait rigoler la bouche.
Et le fiasco.
Oui.
Davy, on a les news musicales qui nous attendent en fin d'heure.
Des news musicales avec un peu de musique, beaucoup d'argent et quelques paillettes.
Exact. Et toi Michael?
Bah, je t'ai préparé un gros paquet de feuilles pour que tu puisses, comme à chaque chronique, quand je reviens te cacher derrière, je vais relancer le concept de la chance aux chansons.
Ah, on est bien.
Tintin.
Et tout ça avant 17h sur Couleur 3. Voilà pour le sommaire de cette deuxième heure. Je vous le rappelle, couleur3.ch pour voir la belle tête d'Ottavio filmée par Charlotte Fernandez à travers la vitre. Et autrement, ce soir, youtube.com/superflu. Links, Abomination. Transgressions since age 11. I've been told I'm a heathen. So you best to believe I'm on guest list for the Armageddon. And if you don't know me, holy shit, I'm unholy. Only low-key gimp that could make Sean Cody look like a Disney movie. And business seems to be booming. I walk in the room with the cross and the pews and my skin burns up like a ginger in June. I would be fed up, I already knew I'm a godless fool. Yeah, three old news, I'm a nut. Let us pray.
Sacred.
Amen.
All the shitty things that you say, yeah. And all the little games that you play, yeah. It makes me wanna be unsacred.
Ils sont en voie d'extinction, pourtant ils nous ont bien allumés. C'était les Lynx avec le titre Abomination.
Viens là.
Non, il veut pas venir. Par contre, il veut bien venir, c'est Ottavio, c'est vendredi, on est tous, tu en rajoutes quoi, bravo.
On a quand même 30 millions d'amis et 11 500 abonnés sur YouTube. La vie est belle.
Vous voulez que je vous montre comment je me lèche? Non, allez, c'est trop. Et la suite. La patte.
La patte, bien sûr.
Superflu, news, pop.
Une cuillère. Du sexe.
Oh.
Des talons.
Une main.
Une cuillère. Jack Gyllenhaal.
Oh.
Des gens. Une obsession.
des sirènes de police, du café, des gens qui marchent sous la pluie, une accusation pour meurtre.
Pardon.
Ça fait peur.
On va aller jusqu'au bout.
Parce qu'on aime ça, parce qu'il va y avoir un début, un milieu et une fin, on se réjouit de découvrir l'existence de Présumé Innocent, une mini-série Apple Plus. Alors l'histoire se déroule à Chicago, on va suivre donc Jake Gyllenhaal dans le rôle d'un jeune procureur accusé du meurtre d'un collègue. Ça semble cocher toutes les cases de ce genre d'histoire, il va y avoir de l'enquête, du sexe, des flashbacks, de la politique, des témoignages, des plaidoyers et des
objections.
Et à la fin, on verra qui se retrouve sur les marches du tribunal pour parler à la presse. Présumé Innocent est adapté d'une nouvelle publiée en 1987, écrite par Scott Frederick Turow, un auteur et avocat américain qui a couché plus d'une dizaine de romans traduits dans plus de 40 langues. Aux côtés de Jake Gyllenhaal, j'ai jamais su, on trouve un très joli casting avec notamment Ruth Negga qui jouait dans la série The Preacher. Je ne sais pas si tu avais vu ça, Christelle.
Oui, c'est excellent.
Excellente actrice.
C'est un plaisir de la revoir.
Exact.
On en a pas trop peu.
Exactement. On a aussi Bill Camp qui joue dans Le Jeu de la Dame et puis The Night Of et Boardwalk Empire. On parle beaucoup de cet acteur, on le voit beaucoup. Et une fois de plus, cette série est produite par David Kelley, un auteur, producteur et showrunner super prolifique. Il a démarré sa carrière en 1986 sur la loi de Los Angeles et il ne s'est jamais arrêté depuis. On le disait il y a quelques semaines, il a créé Ally McBeal, il a créé la série Monsieur Mercedes. Et ces derniers temps, il évolue plus dans la mini-série pour quasiment toutes les plateformes. Il a fait Big Little Lies pour HBO. On en parlait la semaine dernière pour A Man in Full qui est sorti sur Netflix hier, Un homme, un vrai avec Jeff Daniels. Et pour le coup, bah, il n'est pas seul puisqu'on trouve aussi à la production un certain J.J. Abrams, quand même, qui a la production de cette série. Et Jake Gyllenhaal qui a mis un petit peu des billes pour ne pas faire la même erreur qu'il a faite avec son dernier film sur Amazon qui était une croûte sans nom.
J.J. Abrams, donc ça veut dire qu'on a des sun flares.
Des effets de lens flares partout, ouais, etc. Voilà. Donc là, c'est pour Apple Plus qui vont livrer 8 épisodes. À partir du 12 juin, perso, je signe pour ce genre de série. J'ai pas vous.
Ça a l'air.
Joli casting,
oui,
belle réalisation.
Je sens que je vais la chroniquer d'ici quelques semaines.
Il y a des chances, je t'ai ouvert la voie. Deuxième film.
Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerai trop.
Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage. Il s'appelle Guillaume, qui est un banquier international.
Vincent Lindon, dans l'étrange bande-annonce du deuxième acte, la prochaine plaisanterie de Quentin Dupieux, un réalisateur qui parvient toujours à embarquer toute une brochette d'acteurs et d'actrices super bankable.
T'as l'impression que ça fait partie maintenant d'un label de qualité. Il faut que tout le monde ait tourné dans son Dupieux.
Exactement, exactement. Dans le deuxième acte, donc, on trouve au casting Louis Garrel, qu'on a entendu au début, qui joue dans Les Trois Mousquetaires. Vincent Lindon, on a Raphaël Quenard, qui a re-signé après Yannick. Et puis Léa Seydoux qui est là. Visiblement, on parle encore une fois d'un huis clos qui se déroule donc dans un restaurant baptisé Le Deuxième Acte. Ça raconte l'histoire de Florence qui s'apprête à présenter David à son père parce qu'elle est follement amoureuse de lui. Seulement, David n'aime pas Florence et il va tout faire pour l'envoyer dans les bras de son copain Willy, incarné par Raphaël Quenard. Pour pas changer, la bande-annonce est originale. On voit les acteurs marcher face caméra. Ils racontent tous leur histoire depuis leur point de vue. En l'état, c'est très difficile de savoir si on sera sur une bonne surprise comme Yannick ou sur un ovni comme on a l'habitude d'en voir avec Quentin Dupieux. En tout cas, ça va flasher à mort sur le tapis rouge au prochain Festival de Cannes puisque le film est présenté hors compétition pour la soirée d'ouverture le 14 mai. Justement, à Cannes, on y reste avec un film qui va beaucoup faire parler lui aussi. Et malheureusement, j'ai pas d'image. C'est Mégalopolis. C'est l'ultime film de Francis Ford Coppola, âgé de 85 ans.
Wow.
C'est son projet de cœur, en fait, qu'il a commencé à développer il y a 45 ans, en 1979. Quelques années après le succès du Parrain et en pleine sortie d'Apocalypse Now, juste pour rappeler la filmographie du bonhomme. Et bien, malgré ça, pendant 45 ans, il a tenté de produire son film sans succès. Le projet a été annulé plusieurs fois par plusieurs studios jusqu'en 2019, où il a carrément décidé de s'autoproduire en investissant sa fortune personnelle à hauteur de 120 millions de dollars.
Ah oui. Oui,
il avait un peu de côté. Hein. Ça faisait 13 ans qu'il n'avait rien tourné depuis Twixt en 2011 avec Val Kilmer qui s'était ramassé. Donc Mégalopolis, c'est une fresque science-fiction de plus de 2 heures. Le pitch le plus simple, c'est le suivant. C'est l'histoire d'un architecte qui veut reconstruire la ville de New York comme une utopie après une catastrophe dévastatrice. L'architecte est joué par Adam Driver. Le maire de la ville est incarné par l'excellent Giancarlo Esposito. Et la fille du maire qui se retrouve tiraillée entre les deux, c'est Nathalie Emmanuel, l'actrice anglaise qui jouait Miss Sunday dans Game of Thrones, c'était l'interprète de Daenerys. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est pas bien grave parce que le film déborde d'acteurs hyper connus, imagine Coppola. Donc on trouve aussi Laurence Fishburne, John Voight, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Jason Schwartzman et Audrey Plaza, qu'on a pu voir dans Insta Life, un film que t'as adoré, Mika.
Exactement. Et je vais te demander pour celui-là, Mégalopolis, il est juste présent en avant-première à Cannes ou il est dans la compète?
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes. Francis Ford Coppola cherche toujours un distributeur. Pour l'instant, la seule réponse qu'il obtient, c'est « Je ne sais pas comment positionner ce film ».
Ok, d'accord.
Donc il sera à Cannes la semaine prochaine pour essayer de vendre son film. En tout cas, les peu qui l'ont vu, il a fait une vision spéciale avec Spike Jonze, etc. Les mecs ont dit « C'est quand même cool d'habiter, enfin de vivre en 2024 et de voir que des réalisateurs peuvent encore sortir ce genre de film ».
Génial.
Moi, j'ai assez confiance en tout cas. Et hier, en plein après-midi, il y a ça qui est tombé.
I'm working on a new puppet. If we can get him on the show, then Edgar will see him. He'll know how much we want him to come home.
You're going crazy.
C'est Eric. Eric, c'est une mini-série Netflix, un thriller psychologique avec le grand Benedict Cumberbatch. Je te regarde, Christelle, c'est bon ?
Moi, je dirais Cumberbatch.
Cumberbatch. Eric, donc, se déroule dans le New York des années 80 et ça raconte l'histoire de Vincent, logique, un marionnettiste qui va perdre pied à la disparition de son fils de 9 ans. Après une surconsommation de drogue et d'alcool, qui sont un peu la même chose, il va totalement partir en sucette jusqu'à se convaincre qu'il peut retrouver son fiston tout seul grâce à l'aide de Eric, une marionnette de 2 mètres de haut qui se cache sous le lit de son fils. La série se déroule à New York et pourtant c'est une œuvre anglaise. Elle est écrite par Abby Morgan, scénariste sur le film Shame avec Michael Fassbender. Elle a aussi rédigé le scénario des Suffragettes et bossé sur la série Tchernobyl. Eric se présente comme une série qui va troubler les frontières entre le rêve et la réalité. En plus d'une brochette d'actrices et d'acteurs anglo-américains, l'autre personnage c'est la ville de New York, celle des années 80 avec l'augmentation des crimes, l'apparition du sida, le racisme et la corruption qui gangrenaient la ville. Tout ça sera disponible pour binger à bien plaire à la fin du mois, le 30 mai. La bande-annonce me fait penser un petit peu à Kidding, la série de Michel Gondry et monsieur Jim Carrey, et puis aussi le film Where the Wild Things Are, je sais pas,
oui,
si vous vous souvenez.
Incroyable film, franchement, si vous avez du temps, allez voir ce film là. Moi, c'est un derrière.
C'était Wes Anderson, hein, si je me trompe pas,
fou,
ou Paul
fou.
Thomas Anderson, un truc du style. Voilà, sur YouTube, on attend vos commentaires.
Ce qui est, dommage, en fait, c'est qu'en français, c'est le nom haché, c'est Alex et les Maxi Monstres, et on a l'impression que c'est un truc pour un gosse, alors que.
On dirait un
tout.
Film de Luc Besson. Arthur et les Minimoys. Et on termine par juste un petit reminder. C'est le court-métrage Spider dont on vous parlait il y a quelques temps, un court-métrage uniquement produit pour YouTube. C'est fait par les studios Locust Garden avec un jeune réalisateur californien qui s'appelle Andy Chen. Ça revisite le mythe de Spider-Man combiné avec la mouche de David Cronenberg. Ça dure 9 minutes, c'est franchement sympa. L'acteur principal est celui qui jouait le fils du shérif dans The Walking Dead. Il a bien grandi, il a presque 20 ans maintenant. C'est gratos si vous passez la pub au début. Et voilà, vous avez parlé du trailer. Franchement, j'ai vu. On est plus dans la mouche de Cronenberg que dans Spider-Man, si tu veux.
Ah bon ?
D'accord.
C'est plutôt intéressant pour ça. On verra s'il y a une suite. En tout cas, voilà, c'est disponible. On vous le met en lien sur youtube.com.
Ah ouais.
Slash superflu. Ouais.
Couleur 3.
Allez, coupe, Otavio, c'est violent quand même.
Mein Heimwerker-Video ging neulich viral. Jetzt bin ich sowas wie ein Held, zumindest lokal. Doch für Mutti bleib ich Otto, Otto loyal. Nein.
Paula Carolina, voilà, j'ai appuyé deux fois sur le bouton, j'ai allumé et éteint le micro. Bah écoute, le titre, il s'est échappé de ma vision.
Auto-normal, c'est ça que ça s'appelle.
D'accord.
Je peux corriger une coquille, j'ai dit tout à l'heure c'était Alex et les Maxi-Monstres, mais c'est Max et les Maxi-Monstres, le titre en français. Mmh. Cet excellent film, Where the Wild Things Are.
Christelle, oui, on parlait prête. Série, on parlait de plein de choses, on va partir maintenant en France.
Oui.
Pour une série 2 et avec Pierre Ninet. J'ai tout spoilé.
Superflu. Série.
Alors pour l'heure, c'est ma série comique française de l'année. Une série qui porte très mal son titre puisqu'il s'agit de Fiasco.
Ça tourne. Action, tu peux dire action.
Action.
Ah, plus fort.
Plus fort.
Ah non, tu dis action plus fort.
Action. Voilà.
Fiasco, c'est une série co-créée et co-écrite par deux amis de longue date, Igor Gottesman, à qui l'on doit déjà la série Family Business sur Netflix, et c'est Pierre long. Ninet. Les deux potes ont bossé ensemble plusieurs fois, notamment sur le film Five et sur la série de Canal Plus Casting. Ils forment une super équipe et pour Fiasco, ils se sont entourés d'une belle palette d'acteurs et d'actrices, la fine fleur du cinéma français actuel, comme Géraldine Nakache ou l'excellent François Civil, ouais, qu'on a vu l'année passée à l'affiche des Trois Mousquetaires. C'est pénible ce tapis. On peut changer de musique.
On peut changer. Oui, j'ai dit, je t'ai mis une musique rigolote. Ouais. Tu dis si t'en as marre.
Voilà, je l'ai dit. Fiasco raconte le cauchemar de Raphaël Valande, un jeune réalisateur incarné par Pierre Ninet qui s'apprête à tourner son tout premier film qu'il a écrit lui-même. Un film très ambitieux puisqu'il traverse les époques, la préhistoire, les Vikings et surtout la Deuxième Guerre mondiale, époque durant laquelle sa grand-mère était résistante. Raphaël écrit ce film en hommage à cette grand-mère, toujours vivante et ma foi très peu sympathique. Elle se fiche totalement du film, comme tout le reste de la famille d'ailleurs. En gros, personne ne le soutient chez lui. Mais il est motivé comme jamais. Il a engagé son amour de jeunesse pour interpréter le rôle principal, celui de sa grand-mère jeune. Et tout devrait se passer comme sur des roulettes. Sauf que pas du tout. Dès le premier jour de tournage, un caillou vient se coincer dans les rouages. Ça commence gentiment. L'acteur principal du film, campé par un Vincent Cassel cohérent, fait sa diva et refuse de tourner avec des fumigènes. Et puis les choses s'enveniment rapidement. Un discours maladroit filmé et diffusé sur le net. Un corbeau, pas l'animal, hein, mais le maître chanteur. Des sabotages, des pieds coupés. Un pied coupé, pardon. Le tournage vire rapidement à la catastrophe, au fiasco. Un fiasco qui monte en puissance au fil des 7 épisodes et qui nous fait extrêmement rire. C'est un régal de voir ce pauvre Raphaël au milieu de toute cette gadoue. Lui qui n'a aucune confiance en lui et qui a tendance à dire et à faire ce qu'il ne faut surtout pas dire ou faire. Pierre Ninet et Igor Gottesman ont mis le paquet, l'humour est dans chaque scène, dans chaque personnage complètement perché, dans les situations évidemment et surtout dans les dialogues super bien écrits. Les jeux de mots, les références à la pop culture et les vannes fusent dans Fiasco et elles sont pas juste bien écrites, hein, elles sont parfaitement bien jouées. Pierre Ninet est grandiose dans ce rôle, ouais. Il a un jeu très fin, un excellent sens du rythme, les bonnes mimiques qui peut nous faire rire ou nous émouvoir juste avec un regard. J'avoue que j'ai pleuré de rire plusieurs fois devant Fiasco et les parties que j'ai trouvées les plus drôles sont celles que Ninet partage avec François Civil, son pote dans la vie. Leur dialogue ensemble, c'est du génie. Mention spéciale à cette scène dans laquelle Civil, qui n'a pas appris son texte, tente d'improviser sa scène. Il campe un viking.
Bon, non, mais c'est quoi, t'as pas appris le texte?
Mais non, si, bien sûr que si.
Bah non.
Non.
Oui, non.
Bon, c'est pas grave, on improvise, non? Sven, Skoll et Eric, qu'on l'enduise de vin chaud et qu'on astique son mioche.
Ouais, non, bon, allez, couper.
Bon, couper.
Il dit n'importe quoi, là.
Il veut pas improviser.
Qu'on l'enduise de vin chaud et qu'on astique son mioche. Ça ne veut strictement rien dire, j'adore, c'est ma réplique de l'année. L'humour va loin dans Fiasco, ça rigole avec presque tout, même les choses qui sont à la limite de la tolérance wokienne, wokiste. En tout cas, c'est fait avec beaucoup de talent, sans aucune lourdeur. La mise en scène s'avère elle aussi très maîtrisée, surtout que l'exercice n'est pas simple, puisqu'en réalité, on voit une série dans un film. Ce qu'on regarde, ce sont les images du making-of du film tourné par une équipe présente sur le tournage. Donc les plans ne sont pas toujours cadrés, des fois c'est filmé à la dérobée derrière une porte. Et lorsqu'on assiste à une scène du film qui est en train d'être tournée, une fois qu'il a dit action, bah là on voit au contraire une belle image
bien cadrée,
cinémascope, ouais. 16/9 avec les bandes noires et en haut et en bas de l'écran. La réalisation est vraiment incroyable dans Fiasco et ce qui est aussi très appréciable, c'est qu'elle tient cette série jusqu'au bout, jusqu'à la toute dernière minute. L'arc narratif est très bien bien pensé, le dénouement est malin et on le sent pas trop venir en plus.
Hein. Oui, parce qu'il y a un corbeau et on sait pas qui c'est.
On sait pas qui c'est, et puis il y a une chute vraiment à la fin qui est excellente. Alors il y a bien une ou deux petites longueurs pour faire un oxymore en milieu de saison, mais on les excuse très facilement et ça repart de plus belle après. Je crois qu'on l'aura compris, j'ai bien kiffé Fiasco et je lui mets donc un 8 sur 10, ah, qui oui. est une excellente note pour une comédie française.
Je suis d'accord avec toi,
Vas-y. Je note que tu disais à tout le gratin du cinéma français, je note la présence de Pascal Demolon, qui est un acteur
qui a une voix de radio aussi.
Underrated, et qui à chaque fois qu'il est dans un film, il a toujours des rôles fantastiques.
Ouais, il est très 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 bien. Et je trouve qu'il a un petit côté Ricky Gervais, copain Pierre Ninet. Il a bien adapté un peu l'esprit de The Office, la version anglaise.
C'est vrai qu'il
maladresse, il a pris tous les défauts des réalisateurs.
Ouais.
Ça s'appelle Fiasco, c'est dispo sur Netflix
depuis avant-hier. Depuis avant-hier, oui.
Félicitations.
Non, mardi.
T'as tout bingé. Good Neighbors Home. Furtado. Comme tu disais, Mika, on sent Timbaland à chaque note de musique. Oui. C'était le morceau Man Eater et c'était un petit retour en arrière, parce que des retours en avant, c'est difficile, pour aller dans ta séquence.
Rentrons dedans
à pieds joints. Les deux pieds portent bonheur.
L'indispensable dit superflu.
Ooh, yeah. Petit coup d'œil et d'oreille dans le rétro. Depuis février 1982, Couleur 3 est une radio différente dans le paysage radiophonique francophone. Pourquoi ? Parce qu'elle a choisi de diffuser des musiques différentes, loin des diktats des charts, des envies des maisons de disques et des plans marketing. Chez nous, tout le monde a sa chance de passer un jour à la radio. C'est ça l'ADN de Couleur 3. Et je salue au passage toutes les personnes qui ont travaillé ou qui travaillent à la programmation musicale de Couleur 3. Et j'avais envie aujourd'hui de m'insérer un petit peu dans cette tradition de la découverte hors des sentiers battus, en faisant renaître une émission qui donnait justement sa chance aux chansons.
La chance aux chansons. La France sa raison.
Oh là là.
Des fonds de la chance aux chansons.
Alors souvenez-vous, dans les années 80, pour percer dans le métier, en fait, c'était assez facile. Pourquoi c'était facile ? Parce qu'en fait, on pouvait presser à des coûts très bas des 45 tours.
Oui, c'est vrai.
Et puis les distribuer comme ça à ses potes ou aux radios locales qui les passaient volontiers.
C'est comme ça qu'on a eu plein de super one-shot dans les années 80.
Hein. Tu m'étonnes. Alors, bienvenue sur Bide et Musique. Hein. Il y en a plein sur ton tube. Et puis ensuite, c'est qui a pris le relais ? Bah, c'est Internet, dans les années 2000, avec des sites où on pouvait découvrir des groupes et des artistes pas comme les autres, MySpace, SoundCloud, Bandcamp, spécialisés dans la musique, et puis aussi et surtout YouTube, car on peut ajouter, ça c'est génial avec YouTube, l'image au son. Et c'est ainsi qu'une nouvelle génération d'artistes va pouvoir tenter sa chance et trouver son public.
Il en met de la déco autour de la scène.
Beaucoup de balsamique hein, quand même.
Ce que je vous propose, bah, c'est d'en découvrir trois aujourd'hui et on va débuter par une production suisse car on soutient beaucoup la musique helvétique sur Couleur 3 avec la publication sur YouTube en mai 2011 d'un morceau. C'est un projet, ça s'appelle le 118 Project. C'est en fait un crew composé uniquement de pompiers de la ville de Genève qui nous propose un rap pour nous sensibiliser au 118. Mais on ne peut pas dire un rap qui met le feu parce que justement c'est ce qu'on cherche à éviter.
Vraiment falloir que t'écoutes ça.
Le 118, ça crame dans ta guérite. 118, c'est le numéro qu'il faut faire vite. Le 118, le chiffre à retenir. 118, à faire du crâne pire. Le 118, t'es capable de t'en rappeler. 118, faut te faire ta tour. Le 118, au cas où tu flippes. 118, inscris-le dans ton slip.
Pourquoi il faut inscrire le 118 dans son slip ?
Je sais pas.
Parce que le départ d'incendie, c'est là qu'il se produit, qu'on a le feu au cul.
tu connais la genèse de ce titre ?
Vas-y, raconte.
Bah, c'était quand le numéro des renseignements a changé. Oui, ils avaient plein d'appels qui leur demandaient des numéros et des adresses. Et ça un peu monopolisait le standard des pompiers. Donc au bout d'un moment, ils ont choisi cette manière de sensibiliser le public sur le vrai numéro des pompiers.
Et je remercie beaucoup Disco Tavio de ne pas avoir mis Firestarter de Prodigy. Juste avant ou juste après ce petit morceau donc des pompiers de Genève qu'on salue. Je vous propose à présent de découvrir un chanteur français. Cette fois-ci, c'est Benoît, que tu connais un petit peu, Davy.
Bien sûr.
Il sort en 2002 avec son groupe de danseuses et de chanteuses son unique tube qui s'appelle Benoît Tourne-toi.
Ah oui.
Une chanson disco-pop très fun pour évoquer ce moment en fait dans la vie où l'on est dans une phase d'introspection de son anatomie avec l'aide bienveillante d'une personne extérieure. Cela peut être par exemple un membre de son cercle d'amis.
Voilà.
On écoute, s'il vous plaît, Benoît Tourne-toi, avec bien entendu un petit c'est parti de Davy.
Allez, c'est parti.
Oh, la chemise. J'écris la chorégraphie.
J'ai un pote qui avait acheté le single, hein, quand même. Il l'avait acheté.
C'est lui.
Moi, je l'ai offert à un ennemi pour son ami.
Il n'y a rien qui va dans ce clip. Déjà, on dirait un générique d'émission d'M6.
Allez où, Ophélie Winter.
Écoute.
Alors, Benoît, tu as aimé ?
Ouais.
Mais tu ne sais pas un peu. Techno.
Voilà, la fille lui demande quand même, est-ce que Benoît, t'es pas un peu techno sur les bords ?
Hein ?
Pecno,
c'est vendredi,
pas, mais...
ouais.
Mais Pecno, oui, hein, quand même. Avec ses chemises de chez Celio, là, franchement.
Ah ben, c'était le début des années 2000. Hein, ah là c'était là. Comme ça, quoi.
J'en ai eu, hein, des chemises comme ça.
Benoît Tournetois, c'est en fait Philippe Viala qui a quitté le monde de la musique.
Ah, oh, c'est dommage.
Ouais, pour ouvrir un salon de coiffure dans le sud de la France.
Ah, d'accord.
Et maintenant, il dit tourner la tête.
Sans vouloir te forcer, Stéphane, à faire un coming out électro. Électro, je vais te demander si toi aussi, t'as un.
Est-ce que tu veux dire techno?
T'es pas un peu techno sur. voilà, parce que.
Ah, je suis techno sur les bords et au milieu, ouais.
D'accord. Ouais, ouais, parce que j'avais vu que t'avais cette attirance très forte pour Laurent Garnier. Je me suis dit, ah, peut-être que lui aussi, il aime bien la techno. Alors, pour l'anecdote, la chanteuse Najwa Belizel, qui est dans le clip, hein, qui est une des chanteuses et qui danse aussi, raconte en fait que pendant l'enregistrement de cette chanson, qu'on lui demande de dire, tu ne serais pas Benoît un peu techno, elle savait même pas de quoi ça parlait, car elle débarquait, je cite, tel un bébé de sa Lorraine natale. Voilà. On est quand même dans une époque pré-chipolatin, hein, de Théo Lavabo, que vous connaissez. Donc à l'époque, c'est un peu spécial, mais c'était comme ça. Ils ont sorti deux versions. Une version édulcorée pour la radio, donc ils pouvaient passer en journée. Puis la version qu'on vient d'écouter, où on comprend bien qu'il aime la techno. Voilà.
D'accord, très bien.
Et sans transition aucune, on va passer à une autre artiste qui a pu émerger grâce aux internets. C'est Marie L. Alors la RTBF lui a consacré un article et parle d'elle comme la Madonna de Charleroi.
Ah, oh.
Depuis 14 ans déjà, elle aime transmettre dans ses chansons de façon originale un message de fête, d'inclusivité et de tolérance.
Depuis 14 ans.
14 ans déjà. Et ce que je vous propose, c'est de regarder et d'écouter un extrait de son tube Body Léopard, sorti en 2014. Et je vais chanter par-dessus parce que je l'ai écouté au moins 50 fois.
Et le premier qui rigole, il sort. Je sors.
Machine. Quel bazar. C'est vraiment gênant. C'est très gênant.
C'est horrible.
C'est gênant.
Pas, vu, il y a Benoît autour de la piscine.
Oh là là. Eh, c'était en quelle année ça?
2014.
Ah ouais. J'allais dire LMFAO, ils ont rien inventé, mais c'était avant.
Mais t'imagines, toi, hein, le mec, il arrive à l'Uni, tout ça.
Et pourquoi tes parents dans la vie?
Bah, ma mère, c'est Marie, elle.
Ouais. C'est tourné dans le jardin de.
Ah, j'adore.
Et franchement, c'est quand même mieux qu'à Tina Turner.
Voilà, de bonnes vibrations, de l'énergie et beaucoup d'amour. C'est Marie L avec Body Léopard. Alors dans la vraie vie, elle s'appelle Marielle Floridu. C'est une ancienne agent d'assurance et ancienne conseillère communale de la ville de Charleroi. Mmh. Qui a décidé de se lancer dans la chanson en 2009. Voilà. Si jamais, sur sa chaîne YouTube, il y a une version espagnole très caliente de Body Léopard que vous pourrez découvrir. Et aujourd'hui, Marielle est une véritable icône gay. Ou techno si vous préférez. Je vous invite à découvrir tout son univers sur sa chaîne Tontube où l'on retrouve des titres comme Mais où est passé Batman, Humeur Chips ou encore Cacahuète Zouquette que j'adore.
Son plus grand titre.
Voilà. Et je voulais terminer cette chronique en te mettant au défi, Stéphane, de mettre la chanson de ton choix de Marielle au générique de fin de cette émission sur YouTube. Si tu ne le fais pas, je vous invite, chers abonnés, à mettre un pouce en bas ou des commentaires de déception.
La chanson, la France, sa raison.
Merci.
Il faut donner la chanson.
Et Michael Marquet. À la semaine prochaine.
Couleur 3.
Sifa et Sloogi.
Ah, on va nous dans Sifa et Sloogi.
Avec le morceau Free, repérage. Tonnant, tu nous en feras d'autres?
Alors, j'ai une liste de 40 titres, on en a pour toute l'année.
Free, ich fühle mich frei als noch nie. Free, ich gebe acht auf on limit. Zu viele Melodien. For real, überleg die Strategien. Ich renne im Kreis, glaub, alles dreht sich rundherum. Ich geb einen Scheiß drauf, Haters sind jetzt alle stumm. Will hier raus, raus, bin glaub im Delirium. Ich hör den Applaus, ich fühle mich wie Premium. Trinken fein, Cheval Blanc, VSOP. Muss nicht sein, du kannst hier gleich wieder gehen. Brauch keine Zeit, fühl mich gerade hier bequem. Denn ich bin free. Ich fühl mich freier als noch nie. suis dans la zone. C'est tard la night und ich will drehen un astronaut. So fühle ich mich auf Wolke 10, c'est pas de ma faute. Willst du mich heute nicht mehr sehen, so weit, so gut. Für mich ist das gar kein Problem. J'suis pas in love with you, t'es pas in love with me. Fais ta life, j'suis la mienne, chacun sa vie, baby. Chacun sa vie. Ich fühle mich freier als noch nie. Oui. Ich gebe acht auf only me. Zu viel, viel zu viele Melodien. For real, überleg die Strategien.
Sefa et Sloogie, repérage couleur 3 avec le titre Free, comme vous le savez, cette émission.
Quand t'es free, t'as tout compris.
Oh la vache, les chariots, c'est les chariots de feu.
Vangelis.
Ouais. J'ai envie de courir en ralenti.
Bon, je vais remettre la chanson aux chansons, mais je me retiens.
Dans les années 80, dans les mariages, t'avais la pièce montée qui arrivait sur cette musique.
Regarde, il y a des petits mariés, des petits bonhommes, regarde.
Non mais je peux vous parler, ouais il est 43, on a le temps. Une fois j'étais dans un restaurant du côté de Genève, vers Onet, et ils ont éteint les lumières, ils ont mis la musique d'Astérix à mort, et le mec a pris un micro comme ça, puis il disait « Mesdames, messieurs, le poulet en croûte !» Et t'as trois mecs qui sont arrivés avec un énorme poulet dans un truc qui fumait, et puis il n'y avait pas le smartphone à l'époque. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui ça aurait été...
Il y avait de la mise en scène en tout cas.
Ah là là, c'était magnifique. Mais c'était bien parce qu'on a eu Astérix, parce que ça faisait 3 heures qu'on avait la musique de Titanic au piano. En boucle dans le restaurant, quoi. Voilà, TripAdvisor n'existait pas non plus. Davy,
c'est moi.
C'est à toi.
Allez, c'est parti.
Superflu. Musique.
Madonna donnera un concert gratuit demain, samedi, sur la plage de Copacabana pour fêter la fin de sa tournée. Elle l'a annoncé ce lundi. Taylor Swift débarque en Europe pour faire trembler le vieux continent avec son Eras Tour. Je vous rappelle que d'après des sismologues, je vous en avais parlé, les Swifties, lors des concerts de Taylor, peuvent faire grimper l'échelle de Richter jusqu'à 2,3. Eh oui. Et comme si tout cela ne suffisait pas, eh bien voilà qu'une nouvelle tournée planétaire s'annonce. Celle de Billie Eilish, avec pas moins de 81 dates à travers le monde entre septembre prochain et juillet 2025, dont aucune en Suisse. À moins qu'elle aussi ne confonde Sweden avec Switzerland. Autrement, c'est plutôt du côté de Paris, Bologne, Londres, Vienne ou Barcelone qu'il va falloir se diriger pour aller voir Billie Eilish en live. Les places sont en vente depuis ce matin, donc faites vite si jamais ça se trouve, je vous dis ça maintenant. C'est et il y en a déjà plus.
Already too late.
C'est en tout cas peut-être prise par le remords du bilan carbone désastreux que va représenter cette tournée que Billie Eilish a également annoncé cette semaine que son nouvel album, Hit Me Hard and Soft, qui sort dans 2 semaines, le 17 mai, eh bien ce nouvel album sera dispo sur toutes les plateformes, mais aussi sous forme d'Evo Vinyl. Alors, l'Evo Vinyl, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un 33 tours, mais éco-responsable, figurez-vous, oui, parce qu'un vinyle de base, c'est composé à 40% de PVC, polychlorure de vinyle, mélange de sel et de pétrole, si on veut bien, considéré quand même comme une des substances les plus toxiques pour l'environnement. Eh bien, un Evo Vinyl, c'est un disque fabriqué avec des résidus de canne à sucre. Alors ça aurait pu s'appeler le disque Tagada ou le glucodisque, mais c'est la société britannique Evolution Music qui l'a inventé, donc ça s'appelle tout simplement un Evo Vinyl. À ne pas confondre, attention, avec le Vinilgue, qui lui a été inventé par une société française basée en Bretagne et qui est fabriqué à base d'algues recyclées, sauf qu'au bout de 10 écoutes, il est plus utilisable. Alors que celui à base de résidus de canne à sucre, il tient apparemment pas trop mal avec le temps, et en plus il a un son meilleur puisqu'il a des propriétés antistatiques que n'a pas le PVC. Alors perso, je salue grandement cette initiative, mais je rappelle quand même à toutes fins utiles que streamer un album plus de 27 fois entraîne un coût énergétique supérieur à celui de la fabrication de son équivalent en vinyle PVC.
Ah ouh.
Si jamais, sachez-le. Allez,
qu'on commence à comparer.
Voilà. Ouais. Alors, on ne critiquera pas en revanche le bilan carbone de Drake, puisque lui, sa tournée It's All a Blur Tour avec J. Cole vient de se terminer. Ce qui est loin d'être fini, par contre, c'est sa mésentente avec Kendrick Lamar.
Ouh, je dis ma
merci, bienvenue.
Euphoria.
C'est tendu hein, entre eux, ouais. Kendrick Lamar vient de dévoiler ce qu'on entend, la Euphoria, un nouveau single de 6 minutes et quelques dans lequel il rappelle tout le bien qu'il pense de Drake, qu'il qualifie de parano manipulateur pathétique, une salope, un mytho, qui n'est pas un rappeur mais une imposture, un escroc qui n'a qu'un but, celui d'être aimé et qui ne dénonce rien dans ses textes. Et on peut dire que le message est plutôt bien passé, puisque le morceau a déjà été vu plus de 8 millions de fois sur YouTube et totalise plus de 2 millions de plays sur Spotify depuis mardi, c'est pas si mal comme chiffre. Pour rappel, ça fait 10 ans que ça dure cette guéguerre entre les deux rappeurs depuis que Kendrick Lamar a dit dans son single Control qu'il voulait anéantir tous ses concurrents, y compris Drake, qui était censé à l'époque être son pote. Récemment, Drake s'était aussi bien lâché en retour contre Kendrick Lamar dans son single Like That. Alors on ne sait pas encore quelle réponse sera donnée à la réponse de la réponse de la réponse, ouais. Mais honnêtement, j'espère qu'elle sera du même genre que celle de Chris Brown à Quavo, parce que ces deux-là non plus, ils peuvent pas se piffrer. Alors, la façon dont l'un s'est vengé de l'autre est aussi puérile que savoureuse, mais franchement, je voulais vraiment vous la raconter parce que c'est assez drôle finalement. Dimanche passé, Quavo, de Feu, le groupe Migos, était en concert au Hartford Amphitheater dans le Connecticut, dont la capacité est de 5500 places et dont toutes les places ont bien été vendues, sauf que c'est devant une salle quasi vide que Quavo est monté sur scène. Beau joueur, il a quand même tenu à assurer le show, mais il se murmure qu'en fait ce serait Chris Brown qui aurait acheté quasi toutes les places.
Oh la vache.
Juste pour faire chier Quavo et qu'il se retrouve à rapper seul avec son propre écho. Moi ça me fait marrer, mais rendons quand même à César ce qui lui appartient. 50 Cent avait déjà trollé Ja Rule de la même manière. Il avait acheté les 200 premiers rangs d'un de ses concerts à $15 la place, ça lui était revenu à 3000 balles le troll. Une paille quand on s'appelle 50 Cent. Et ça reste pas grand chose non plus comparé à ce que réclame la star du concert de l'Homme Pâle à Genève. Star malgré lui, hein, puisque souvenez-vous, le 25 février 2023, alors que le concert allait démarrer, il a été subitement annulé. Ouais. Après la première partie, l'aréna a dû être évacuée avant d'être minutieusement fouillée par la police qui avait capté un message jugé menaçant sur Snapchat posté par un vendeur de crêpes officiant avec son food truck sur le parvis de la salle de concert. L'homme en question a été arrêté, soupçonné d'actes terroristes et puis finalement relâché. Tout ça pour ça, il n'y avait pas du tout d'attentat planifié, du moins pas cette fois. Parce que le ministère public genevois et la chambre pénale de recours ont trouvé dans son dossier une quinzaine d'antécédents judiciaires en France, notamment pour menaces de mort, de violence, d'attentat. C'est l'intitulé exact, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais comme il y a le mot attentat dedans, la justice genevoise a estimé qu'elle verserait à cet homme, pour le préjudice subi par cette arrestation musclée et jugée disproportionnée le soir du concert de l'Homme Pâle, dédommagement 400 francs. Et lui, vous savez combien il réclamait?
Oui, moi je savais, vas-y.
400 000 francs
à l'américaine.
Ouais, donc... Alors, autant vous dire qu'il l'a un petit peu mauvaise, mais il aurait dû savoir que l'argent, c'est comme avec les crêpes, quand on est trop gourmand après, on a du mal à digérer.
Oh, je connais ça.
Allez, beaucoup d'argent encore et beaucoup de paillettes également. Vous voyez cette veste que porte Michael Jackson là?
Ooh yeah.
Il la portait en 1984 sur le Victory Tour, tournée qu'il avait faite avec ses frères, les Jacksons. Cette veste a été créée par le styliste Bill Whitton, à qui l'on doit aussi le fameux gant blanc qu'il porte également à l'écran. Venez voir sur couleur3.ch et sur notre page Useboob. Vous pourrez vous faire une petite idée du coup de ce à quoi ressemble cette veste avant peut-être d'essayer de vous la faire adjuger à la vente aux enchères quand aura lieu à la fin du mois, 29 et 30 mai au Hard Rock Café de New York, mais vous pourrez la suivre en ligne et en chérir bien sûr pour essayer d'acheter cette veste qui est estimée entre 80 et 100 000 dollars.
On sait qui l'a actuellement.
Non, elle était dans un musée.
D'accord, ok.
C'est l'un des lots les plus chers, avec des guitares de Randy Bachman aussi. Donc Dieu sait encore qui va acheter ça. Peut-être encore un bout de notre patrimoine occidental qui va partir à Dubaï ou pourrir dans une caisse au port franc de Genève. En tout cas, ça reste mieux que le lot qui devait être mis aux enchères lors d'une vente organisée fin février en Écosse, qui a finalement été retirée de la vente parce qu'elle commençait à faire un peu scandale. C'était une balle extraite du revolver qui a servi à assassiner John Lennon.
Oh, le bon goût.
Puis finalement, ça a été retiré de la vente. Voilà. Je vous propose de revenir quand même à plus de paillettes, mais pas sur une vieille veste, non, dans un album tout neuf, Reasonable Woman.
Ça fait très Sia, Ciel.
Eh oui.
Retour en 2024.
C'est le titre du nouvel album de Sia qui est sorti ce matin, Reasonable Woman. C'est marrant parce que moi c'était justement tout sauf une femme raisonnable dans mon souvenir. Sia, c'est justement ça qui faisait sa force. Hein. C'est ça qui fait qu'elle a osé quand même sortir il y a 3 ans le film Music, qui a été un échec complet. Je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Zoo et de sa demi-sœur.
Bah non, on s'en souvient pas justement parce que
3,5 sur 10 sur IMDb et Rotten Tomatoes.
Voilà, elle est cher, hein, ouais.
Malgré une nomination au Golden Globes quand même. Il est pas loin d'entrer au potager du cinéma avec ses congénères les navets. Et il a fallu beaucoup de temps à Sia pour se remettre de cet échec, mais bon là, elle a l'air d'avoir digéré, en tout cas avec ce Dance Alone qui fait plutôt le job en duo avec sa compatriote australienne Kylie Minogue.
Mais c'est vrai que les chanteuses, quand elles sortent des films où elles se mettent en vedette, Mariah Carey, tout ça, c'est à chaque fois des fours. Hein.
Ouais, c'est pas une bonne idée. Hein. Vaut mieux faire un album comme ça qui est très Sia dans le style. Ouais. J'ai jeté une oreille ce matin, ça va. Il y a pas mal de duos aussi, dont un avec Paris Hilton et un avec Chaka Khan. Voilà. L'occasion de rappeler que Sia fait tout sur ses albums. Elle est autrice, compositrice, interprète. Et ça fait longtemps qu'elle est dans le game. Hein. Rappelons qu'il y a 30 ans déjà, elle bossait pour le groupe Zero Seven. Je sais pas si vous
avez c'était les ingénieurs sons des Radiohead.
Exactement. Et elle a ensuite aussi beaucoup écrit et composé pour Rihanna, Beyoncé, Katy Perry, Britney Spears et Céline Dion. Et que c'est à cause ou grâce à David Guetta si elle s'est lancée en solo, parce qu'elle avait enregistré pour lui une maquette d'un titre qui devait sortir avec Afrojack. Et en fait, ils ont tellement kiffé la voix de Sia qu'ils l'ont supplié d'accepter d'apparaître sur le morceau alors qu'elle ne voulait pas. Elle sortait, elle, d'une dépression mêlée d'alcoolisme à cause de l'industrie musicale. Elle n'avait pas envie d'y retourner. Finalement, elle a plutôt bien fait de replonger dans la zic, hein, pas dans la bouteille. Preuve avec ce Reasonable Woman qui vient de sortir, à l'instar de cette petite pépite qu'on a repérée tous les deux avec Stéphane avant-hier, un nouveau single de Barry Can Swim. Alors, il sait peut-être pas nager, Barry, mais il sait faire des bons morceaux, comme grand-mère sait faire un bon café. Celui-ci s'appelle Kimbara. Il sent bon, pas le café, mais la house des années 90. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
Même les images du clip. Hein.
À fond,
franchement.
Ouais. Alors, c'est pas le clip officiel pour l'instant, c'est juste un visualizer, comme on dit.
Ouais, exact.
Mais Barry Can Swim, franchement, c'est pas mal. On en avait entendu aussi un
ça
single
sur la
3. Ouais.
Et c'est la danse du crabe qu'on
passait. Exactement,
ouais.
Joshua Meini, de son vrai nom, producteur écossais et multi-instrumentiste signé chez Ninja Tunes, label de qualité.
Joli label.
Qui, je vous le rappelle, est à la musique électronique ce que le label rouge est au jambon de Bayonne.
Est-ce que tu es en train de nous dire que ce serait le nouveau Calvin Harris?
Écoute, pourquoi pas. En tout cas, la comparaison est assez juste, je trouve, ouais. Et puis, je pouvais pas ne pas en parler, hein. C'est un des albums les plus attendus de cette année, le 3e et nouvel album de Dua Lipa. Il est sorti ce matin. Mais c'est avec ce remix, moi, que je voulais vous en parler. Parce qu'il y a un gars sur YouTube et sur SoundCloud qui s'appelle Exile.
Oui,
et qui s'amuse à publier des édits qu'il fait lui-même de chanteuses pourtant bien d'aujourd'hui, mais dans des versions synth-pop, électro-italo-disco, complètement années 80. Des versions que je trouve, dans 99% des cas, bien meilleures que les originales.
Et alors, tu sais quoi? Bah, je les passe dans The Radio et celui-là, il est programmé aussi dans The Radio.
Ah, ça fait plaisir.
Vous pourrez écouter The Radio demain entre 10h et 11h.
On se réjouit de l'entendre.
Sur le Couleur 3 80s.
Tu le joues en entier?
Bien sûr.
Ah, excellent.
Tout le monde se passe en
entier. Et puis, il y a plein d'autres versions qu'il a fait, Exile, avec Adele, Taylor Swift, Rihanna, Miley Cyrus,
Lady Gaga, il a
Lady Gaga. Et en plus, tel un illusionniste des temps modernes, eh bien, il s'est attaqué donc à ce Houdini de Dua Lipa. On peut en écouter un petit bout, on a le temps.
Et ce qui est dingue, c'est qu'il refait toutes les covers en fait face aux 80s.
Et oui, comme dit Mika, vous pouvez aller écouter sur son SoundCloud, mais le mieux c'est quand même d'aller voir sur sa chaîne YouTube, donc Exile, hein, parce qu'il a créé effectivement que des fausses pochettes de 45 tours qui vont avec ses remixes. C'est kitsch à souhait, et bah là ça nous fait dire que finalement, une coiffure choucroutée de 1985 et un peu de gloss, ça lui irait pas si mal à Dua Lipa.
Ouais, ça va bien. D'ailleurs, Houdini, le morceau, c'est un des morceaux de ce nouvel album. Hein.
Tout à fait, il est en 2e ou 3e position. J'ai jeté une oreille aussi à l'album de Dua Lipa ce matin en venant.
Bien produit.
Et ben ouais. Ouais, j'arrive pas à détester, hein, c'est fou, c'est assez bien fait. Hein.
Non, mais c'est sympa Dua Lipa, je trouve.
Ouais. Ah oui, tout à fait.
Il y a des succès mérités encore aujourd'hui, c'est pas uniquement les algorithmes qui font le succès.
Non.
Parfois c'est la qualité. Eh oui, étonnant, non,
comme il est très disco house cet album, il passe mieux pour moi que celui de Sia par exemple, qui est très Sia et c'est pas trop mon style.
On est bien d'accord. On passe le petit morceau que Dynamite nous a envoyé.
Vas-y.
En ce moment, sur YouTube, il y a une recrudescence de morceaux composés avec des intelligences artificielles.
C'est fou, ouais.
Ça, c'est un morceau de hip-hop super récent et Dynamite me l'a envoyé hier en me disant « T'as vu, on dirait un vieux morceau ». Et en fait, non, c'est des paroles d'un morceau de hip-hop récent. Je l'ai pas parce que j'ai pas les refs, mais dans cette version des années 60.
50 même, non, 60. Et puisqu'on parle un peu de musique un peu soul comme ça,
Soul ou soul?
Soul.
Soul, c'était avant avec la techno de Benoît de Bouton.
On va recevoir, je sais pas pourquoi je dis on, il va recevoir dans Pili Pili Nevi ce dimanche.
Qui vient de sortir un nouvel album qui est fabuleux.
Il a une nouvelle séquence.
La chanson. La France.
D'ailleurs, ce nouvel album de Nevi, moi je pensais qu'on en entendrait peut-être un single dans la programmation de la 3. Elle est où Nevi dans la programmation de la 3?
J'espère que ça arrive. Hein.
Allô? Elle est où Nevi dans la programmation de la 3? Allô?
Voilà, tu parles de Nevi, on va écouter Travis.
Couleur 3.
Gaslight, puis après on se dit au revoir avant la bande amateur. Ils sont là, ils sont prêts, ils sont au taquet,
ils sont chauds.
Avec le titre Gaslight pour clore l'épisode 69 de Superflu. On se donne rendez-vous
ça,
plus
c'est
tard.
Une musique de 69,
dans la journée, ça. Dans la soirée sur youtube.com/superflu.
Oui, oui.
Merci David Bailly-Bazin.
De rien, on se retrouve la semaine prochaine en Virtual Davy.
On est d'accord.
Avec Buvette.
Oui, merci charmante Christelle.
Avec plaisir, à bientôt.
Merci, jolie Mika.
Un bon week-end.
Merci à Ottavio, merci à Charlotte. La suite, c'est la bande amateur sur Couleur 3. Bon week-end.
Superflu avec Mission Astrophone. Oh. L'escape game urbain à Neuchâtel, missionastrophone.ch.
Couleur 3. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va.